mais en même temps rencontrer un certain nombre de convictions intimes ou de conclusions auxquelles vous étiez globalement et individuellement tous parvenus, ou à peu près, et que je ne fais que sanctionner académiquement ce que vous pensiez tout bas, pour ne pas reprendre une formule malheureusement trop célèbre d'un type qu'on ferait mieux. Enfin bon, bref, je ne finirai pas ma phrase. Vous avez tous compris.
D'une femme blonde.
Oui, voilà. Enfin, de moins en moins jeune. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement blonde. Mais enfin bon, peu importe. ça n'est jamais que le moindre de ces caractères kitsch et faussé. Pour autant, j'ai pas réussi tout à fait à atteindre la borne chronologique que je m'étais mentalement fixée, sauf en vous racontant mon histoire de disque souple, qui était la fin des années 50, le début des années 60. Moment qui ouvre pour nous, rétrospectivement, tel que nous la considérons tous, quel que soit notre niveau de spécialisation, etc., qui ouvre la période de l'art contemporain. Alors, l'histoire de l'art contemporain, elle commence en 1789, donc vous voyez, nous on a encore un peu de retard, mais tout le monde voit bien de quoi on parle, en fait, quand on parle d'art contemporain. On parle des choses qui viennent après 1960. Et aujourd'hui, dans l'historiographie américaine, on emploie un terme qui fait bondir certains de mes collègues ici, d'ailleurs, mais qui personnellement m'intéresse, qui est celui du conceptual turn, c'est-à-dire le tournant conceptuel. Ce moment où, finalement, comme si ça n'avait pas été le cas avant, ce qui évidemment resterait entièrement à démontrer, le moment où l'œuvre d'art devient une œuvre de l'esprit. Si on a lu Idéa de Panofsky, si on a des souvenirs de la République de Platon, on sait qu'en réalité, depuis toujours, on pense que l'œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit. Mais enfin, peu importe. L'idée qui est derrière le conceptual turn, c'est que cette spiritualisation, et je comprends bien que ce mot est ambigu et que ce n'est pas du tout d'une spiritualité ou d'un mysticisme dont il est question ici dans la façon dont je l'emploie, cette spiritualisation de l'art s'accompagne d'une certaine forme de recherche de dématérialisation des objets. Bon, bref, c'était juste comme ça pour essayer de raccrocher les wagons avec ce que je voulais dire maintenant. Lorsque Jackson Pollock meurt bêtement dans un accident de voiture. Je note en passant qu'on a oublié qu'il avait également tué la jeune femme qui était à côté de lui, mais enfin bon, peu importe, parce qu'il était ivre-mort et qu'il s'est pris un arbre. Lorsque Jackson Pollock donc meurt en 1956, littéralement, l'art moderne américain se retrouve orphelin. Mais en même temps, il est clair à peu près pour tous les artistes de la génération suivante que Jackson Pollock n'avait plus rien à dire, qu'en quelque sorte son moment était révolu, qu'il raffinait une recette d'atelier avec le dripping, et que, en gros, il alimentait la machine comme Picasso avait pu le faire également. Et la mort de Jackson Pollock ouvre en quelque sorte l'horizon pour ces jeunes artistes dont les référents sont assez différents en fait de ceux qu'ils pouvaient être les siens, bien que lui-même son apport en quelque sorte ne soit pas directement rejeté. Je pense ici à un texte publié en 1957 par Alan Kaprow qui s'intitule « L'héritage de Jackson Pollock », dans lequel Kaprow revient sur le personnage de Pollock un an après sa mort. Et ce qu'il dit est vraiment, vraiment dramatique. En tous les sens du terme. Il... il place Pollock dans la grande geste de la modernité. Et surtout, Capro explique que Pollock se vivait comme artiste avec le fantasme de ce que peut être l'artiste moderne. Et qu'il se projetait en quelque sorte dans un destin malheureux. Une reconnaissance posthume. Enfin, tout ce genre de mythologie ou de mythographie attachée à l'artiste moderne. Et que, d'une certaine manière, sa vie, l'espèce de déchéance dans laquelle il se trouve dans ces dernières années, déchéance personnelle, il est très déprimé, enfin bon, peu importe, sa vie est construite de telle sorte à ressembler à ce fantasme de l'artiste moderne, qui est le point à partir duquel il travaille. C'est un constat particulièrement violent, enfin c'est un procès d'une violence extraordinaire que fait là Capro, puisque finalement il ramène l'art de Pollock à une forme de chimère poursuivie par un artiste qui aurait été rattrapé par la légende qu'on avait voulu construire autour de lui. En gros, d'après Capro, pour qu'il ressemble à ce que doit être l'artiste moderne, il lui fallu qu'il soit véritablement malheureux. Or, Pollock vit ces dernières années dans un confort matériel réel, une reconnaissance nationale et internationale considérable. Et évidemment, cela contrevient complètement avec l'imaginaire de l'artiste moderne qu'il s'était constitué, qu'il aurait véritablement placé à l'égal des artistes européens. Et Capro poursuit en examinant ce qu'est la peinture de Pollock dans sa pratique, dans sa démarche, dans ses effets de perception pour le spectateur. Et il intègre également dans son article l'impact, la réception qu'ont pu avoir les photos de Hans Namuth, que je vous ai montré tout à l'heure, de Pollock dansant autour de sa toile. Et Capro pourrait avoir dit que Pollock, malheureusement pour lui, n'était pas mort à son plus haut niveau, mais déjà dans le versant décadent de sa pratique, conclut son article, qui est véritablement alors un enterrement de première classe, hein, vous l'avez bien compris, conclut son article en expliquant que Pollock a montré la voie d'une liberté qu'il n'a pas su appliquer à lui-même. Qu'il est resté prisonnier d'un système de la production picturale, alors même que finalement tout était là autour de lui pour qu'il franchisse le pas que, évidemment, Capro et ses camarades se proposent de franchir. Il dit, enfin, Capro explique que lorsque Pollock peint, il est environné de sa peinture, il y en a sur tous les murs, il y en a par terre, il travaille comme ça dans une espèce de continuité, de saturation, et qu'en fait ce qui se joue dans la peinture de Pollock, pardon, ce n'est pas du tout ce que l'on en montre, c'est-à-dire le tableau dans toute sa splendeur, son autonomie, sa singularité, etc., c'est au contraire l'idée d'un environnement, d'une saturation, d'une alternative, finalement, au monde dans lequel l'artiste se déplace. Ce qui, pour Capro, est essentiel dans l'art de Pollock, c'est que le monde qu'il construit dans ses peintures se substitue au monde réel. Et que cette expérience-là, qui est l'expérience intime de Pollock, décidément, en train de peindre, eh bien finalement, les conditions de monstration de ses œuvres ne nous l'autorisent pas. Parce que les œuvres sont redécoupées, parce qu'elles sont exposées de façon autonome, isolée, etc. Parce que. En même temps, après la mort de Pollock, la peinture de Pollock, ou l'imitation de la peinture de Pollock, se trouve présente absolument partout. Quand je dis partout, c'est que on trouve des drippings ou de la peinture abstraite équivalente en vente dans les grands magasins new-yorkais, que l'on a sorti avec le motif de son canapé. Et le sky avec des petites mouchetures typiques de la fin des années 50. C'est-à-dire que les apports, en quelque sorte, artistiques de Pollock ont été instantanément recyclés parce qu'il y avait aussi cette médiatisation de Pollock en tant qu'homme, ont été immédiatement recyclés comme un motif ornemental, quelque chose de l'ordre du papier peint, ce qui n'est pas loin, en fait, de ce que nous en dit Kaprow. Parce que le papier peint moucheté avec la toile imitant Pollock et le canapé au sky rouge avec des taches noires, là, enfin, vous avez tous ça en mémoire, j'imagine, c'est jamais que du Pollock industriel. Et ça forme un environnement. On parlait tout à l'heure d'architecture. Les premiers à penser pleinement un environnement entièrement esthétisé, ce sont les architectes. Les architectes de l'Art Nouveau, par exemple, ce qui détermine Guimard ou même les gens d'Arts and Crafts, par exemple, avant. C'est de construire une forme d'écrin d'esthète qui forme une espèce de cocon protecteur, mais en tout cas qui opère une substitution entièrement artistique au réel. Donc, lorsque Kaprow souligne la question de l'environnement, de que ce qui nous environne et de ce qui environnait Pollock dans sa peinture, il en vient très rapidement à la conclusion que puisque l'environnement de Pollock peut être restitué par l'industrie, alors l'environnement de la ville moderne, de ses déchets, de ses néons, de ses enseignes criardes, etc., vaut aussi comme matériau artistique. Et il conclut son texte de 1957. Allez, je vais vous le... Je vais vous l'afficher. Je vais prendre 3 minutes pour le retrouver. Et c'est ce qui se passe. Pollock, comme je le vois, nous a laissés au point où nous devons nous préoccuper, même être éblouis, par l'espace et les objets de notre vie quotidienne. Ce qui est complètement paradoxal par rapport au projet originel de Pollock, d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe, ou à la façon dont il a bénéficié d'une réception critique. Que ce soit nos corps, nos vêtements, les pièces où l'on vit, ou, si le besoin s'en fait sentir, par le caractère grandiose de la 42e rue. Insatisfaits de la suggestion opérée à travers la peinture sur nos autres sens, nous utiliserons les spécificités de la vie, du son, des mouvements, des gens, des odeurs, du toucher. Des objets de toutes sortes peuvent être des matériaux pour le nouvel art, peinture, chaises, nourriture, néons et lampes électriques, fumée, eau, vieilles chaussettes, chiens, films et mille autres choses qui seront découvertes par la génération actuelle d'artistes. Non seulement ces créateurs audacieux vont nous montrer, comme si c'était pour la première fois, le monde que nous avons toujours eu autour de nous et que nous avons ignoré, mais ils vont découvrir des happenings. Il n'a pas encore réalisé son premier happening à l'époque. Des happenings et des événements entièrement inconnus trouvés dans des poubelles, des classeurs de police, des couloirs d'hôtels, vus dans des vitrines de magasins et dans des rues, et éprouvés dans des rêves et des accidents horribles. Une odeur de fraise écrasée, la lettre d'un ami, une affiche pour vendre une marque de lessive, trois petits coups sur la porte d'entrée, une griffure, un soupir, ou une voix lisant sans fin, une vision saccadée, aveuglante, un chapeau melon. Tout deviendra matière première à ce nouvel art concret. Les jeunes artistes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de dire « je suis peintre » ou « poète » ou « danseur ». Ils sont simplement artistes. Tout de la vie leur sera ouvert. Ils découvriront à travers des choses ordinaires le sens de l'ordinaire. Je fais juste une petite incise là. La question de l'ordinaire, évidemment quelque chose qui a déjà été interrogé par l'art et par l'art d'avant-garde singulièrement. Mais par exemple, dans le surréalisme, la découverte que l'on fait à travers les choses de l'ordinaire, c'est précisément le sens de l'extraordinaire. Or ici, Capro, et de façon très, très consciente, nous dit bien, ils découvriront à travers des choses ordinaires le sens de l'ordinaire. Ils ne tenteront pas de les rendre extraordinaires, mais ne feront qu'en constater leur sens réel. Et à partir de rien, ils imagineront l'extraordinaire et peut-être aussi bien le néant. Les gens seront enchantés ou horrifiés, les critiques seront dans la confusion ou amusés, mais cela, j'en suis certain, ce sera les alchimies des années 60. C'est un texte incroyablement programmatique. Alors, c'est un peu comme les prophéties autoréalisantes, évidemment, puisque lui-même pousse de toutes ses forces pour que le type d'art qu'il vient de défendre advienne. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et puis, en même temps, ce n'est pas complètement neuf au moment où il l'écrit, parce que il est l'élève de John Cage à la New School for Social Research, et que John Cage déjà travaillait avec ce genre d'objets et de délocalisation, en quelque sorte, du lieu de la musique. Mais enfin, il prend un parti pris anti-moderniste, enfin anti-Greenbergien, très clair, en nous disant nous serons artistes, ni peintres, ni danseurs, ni poètes ou quoi que ce soit. On ne va pas travailler un médium. On va mettre en œuvre, finalement, une créativité qui est partagée à partir d'éléments que tout un chacun peut saisir. Et d'une certaine manière, le projet qu'expose Capro, lorsque il parle d'un nouvel art concret, c'est un accès généralisé à la créativité. Je crois que cet accès généralisé à la créativité et à la création est le principal fantasme, ou le principal idéal plutôt, de l'idée de l'art contemporain, de ce que l'on entend par art contemporain. L'art contemporain tel qu'il se formule donc à la fin des années 50, c'est un art qui est profondément accessible à tous. par destination, par nature. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas éventuellement être étrange, rejeté, différent, enfin, marginal, ou quoi que ce soit. Mais en puissance, il s'adresse véritablement à tous, parce qu'il ne fait pas nécessairement appel à des systèmes d'analyse ou à des compétences techniques, une virtuosité ou à une sensibilité particulière ou particulièrement affinée. Il fait appel au concret, au quotidien, à l'ordinaire. Il mobilise les objets qui sont l'environnement de tout un chacun. C'est très différent de l'origine des politiques culturelles. Pensez par exemple à Malraux, au 1% culturel, enfin artistique, ou à la création des MJC. L'objectif est diamétralement opposé. Ce n'est pas faire une culture de tous pour tous, avec des matériaux et des concepts finalement accessibles à tout un chacun. C'est amener la production artistique de l'élite directement au peuple. Ce qui est tout à fait louable, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est idiot. Hein. Simplement, ce que je dis simplement, c'est que c'est une approche de la politique culturelle entièrement différente et qui... quelque part, je crois, en tout cas, on peut le dire peut-être aujourd'hui, a un peu perdu ce combat. On pourra en discuter tout à l'heure, mais Jean Villard, enfin, le TNP, toutes ces réalisations absolument extraordinaires, les débuts du Festival d'Avignon, même les premiers festivals de Cannes, pour prendre un art quand même éminemment populaire qui est celui du cinéma, sont des réalisations d'une très haute exigence culturelle et intellectuelle. On prend les grands textes, les grands auteurs, les classiques, ou les modernes les plus exigeants, et on cherche à les mettre à la portée de tous, par un développement de l'éducation, par un apprentissage largement... une démocratisation de l'enseignement, par exemple. Enfin, il y a comme ça toute une série de conséquences à ce projet qui caractérisent finalement ce que nous sommes, nous, Français, peut-être, en ce moment. Mais le projet de Capro et derrière lui de Cage et de l'ensemble des élèves de Cage, Georges Brecht, Larry Pounds, enfin, tous ces gens qui ont fait Jim Dine, Georges Matsunas, enfin, tous ces gens qui ont fait le milieu des néo-avant-gardes, ou des avant-gardes, allez, des années 1960, leur projet est bien différent. Leur projet, c'est de prendre le public potentiel, celui qu'ils se projettent, là où il en est, et de le déplacer, de le transformer en quelque sorte, par une expérience issue du quotidien, issue de la culture de masse, issue de, éventuellement, même l'industrie culturelle. D'où le procès qui est fait systématiquement aux États-Unis depuis 50 ans, de la séparation entre une culture... populaire, qui n'est pas une culture populaire, mais une industrie culturelle ou une culture de masse, ça c'est tout à fait des choses différentes, et une culture high ou de l'élite. Le nombre d'expositions, je pense à Blam par exemple, ou à High and Low, ou à évidemment toutes les expositions sur le pop art, etc., repose en permanence sur l'idée que l'européanisme culturel est est une culture de la discrimination de classe, et que l'art américain, au contraire, égalise et donne accès à tout un chacun, enfin à l'expérience esthétique pour tout un chacun, quel que soit son patrimoine culturel, puisqu'on parlait de Baudrillard tout à l'heure. C'est un grand projet, non pas démocratique, mais égalitaire. Le projet démocratique de l'action culturelle, c'est celui qui est poursuivi par la France. Combien de fois, on parlait de fiches de poste tout à l'heure, combien de fiches de poste depuis 30 ans ont été rédigées avec ces termes ? Démocratisation de l'art, médiation, accès. On multiplie les béquilles comme si les gens en avaient réellement besoin. Peut-être, je ne sais pas, mais est-ce bien sûr ? Les Américains, du moins les artistes américains tels que Capro se les imagine, moi je ne travaille finalement qu'à partir de cette représentation-là, présente celle de Capro en 1957. Les Américains posent, enfin Capro en tout cas, pose la chose de façon bien différente. C'est qu'il y aurait une forme de grandeur à la banalisation ou à la banalité plutôt du goût des masses. Quelque part, Capro est aristotélicien, quoi. Hein ? Ce qui l'intéresse, c'est de partir du goût de la masse et à partir de ses outils, à partir de ses matériaux propres, les objets de consommation, de la production industrielle, les déchets dans la rue, ce qui l'environne, eh bien, par des procédés plastiques relativement simples, accumulation, déplacement, interactivité, enfin, échange, participation, environnement au sens propre. Par des procédés plastiques donc relativement simples, arriver à ce que les participants de ces environnements ou de ces happenings nous ont un rapport différent avec le quotidien en dehors du moment artistique, puisque ce quotidien est en réalité le même. Il n'y a pas réellement de différence d'un point de vue de ce qui nous apparaît, voilà, je ne sais pas, hop, je vous montre un happening que j'aime bien de Capro, qui s'intitule Household, c'est-à-dire tâches ménagères, qu'il a réalisé à l'université de Cornell, qui est une université d'art dans l'État de New York, enfin bon, d'art entre autres. Sur les rapports garçon-fille et sur la guerre des sexes, en quelque sorte. Bon, je ne vais pas rentrer complètement dans la description de Household, parce que je n'aurai pas le temps, mais ce qu'il s'agit de manipuler, c'est des épaves de bagnole, en l'occurrence ici une Nash Airflow des années 30, qu'il est bien dommage d'avoir massacré, mais enfin bon, peu importe, de la confiture, qui sont là hardiment en train de lécher, des choses tout à fait banales, hein, attendez, excusez-moi, hop. Des produits de supermarché, des seaux, des balais, des poulets morts, enfin, rien finalement que le continuum dans lequel tout un chacun vit, se transporte, survit, enfin, interagit. Simplement, les conditions de l'interaction avec ce quotidien diffèrent grâce aux dispositifs, aux champs de contraintes, en quelque sorte, que propose l'artiste. Encore faut-il bien dire que dans le happening, la capacité, enfin, la possibilité d'improviser de la part des participants est à peu près totale. Parfois avec des conséquences qui dépassent largement les espérances de l'artiste. Je pense par exemple à Al Hansen, dont les happenings ont toujours viré plus ou moins à l'émeute avec des choses dramatiques. Enfin, je pense en particulier à une pièce dans laquelle une jeune fille a carrément sauté du deuxième étage, traversé une verrière, enfin, parce qu'elle était sûre qu'elle pourrait voler. Enfin, bon, bref. Passons, mais ce que nous propose ces néo-avant-garde, ce n'est jamais que d'opérer un pas de côté par rapport à ce qui est attendu de notre rapport au quotidien, à l'ordinaire. L'ordinaire n'est pas moins ordinaire dans sa nature. Simplement, nous ne dealons, entre guillemets, plus de la même façon avec lui. Si vous regardez le travail des artistes de la performance, hop, on va regarder ça tout de suite. Évidemment, il faut que je le retrouve dans ma base de données. Je vous présente mes excuses. C'est là, peut-être. Voilà, je vous montre, par exemple, ici, un travail de Capro, hop, qui s'intitule Yard, c'est-à-dire le nom des arrière-cours. Dans les maisons à Brooklyn, enfin, où Capro donc a tout simplement réalisé des racks, enfin des étagères sur lesquelles il a aligné des pneus. Et ça, c'est juste après, enfin c'est quelques heures après, les participants sont mis à littéralement se saisir du pneu comme matière ludique et à les jeter, à sauter dedans, jouer avec, enfin bon, comme cela peut se produire bien souvent dans ces situations qui sont relativement festives, mais même lorsqu'elles ne sont pas particulièrement festives ou lorsque on a affaire à quelque chose de plus proche du théâtre ou de la danse, comme dans les performances de Caroli Schneemann. Alors ici, le titre n'est pas bon. Hein. En fait, c'est l'œuvre s'intitule Meet Joy. Et Meet, ça s'écrit M-E-A-T. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots, évidemment, c'est polysémique, entre le plaisir de la viande, de la chair, et rencontrer la joie, littéralement l'illumination mystique. Hein. Donc c'est Caroli et ses danseurs passent un certain temps à se rouler dans une cinquantaine de kilos de viande animale, enfin d'animaux morts. Donc, bien entendu que cette pièce est tout à fait perturbante pour le public, tellement perturbante d'ailleurs que un des spectateurs s'est levé. Et a commencé à étrangler Caroli Schneemann sur scène, et puis personne ne s'est vraiment aperçu de ce qui se passait. Enfin, la plupart des gens qui étaient autour pensaient que c'était prévu, mais il était en train de l'assassiner, jusqu'à ce qu'un de ses danseurs finisse par l'assommer, enfin comprenne qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'elle était toute bleue. Quoi. Donc voilà, mais les instruments, entre guillemets, c'est 12 petites culottes. Et 50 kilos de poulet et de lapin, enfin, c'est rien. C'est pas le sublime du petit pan de mur jaune dans le paysage de Delft. Ce n'est pas la ligne à l'intérieur de la ligne. Ce n'est pas toutes ces figures exemplaires, toutes ces hagiographies que l'histoire de l'art à la mode vasarienne nous a appris à admirer. C'est pas le petit sourire en coin de la Joconde. Non, c'est parfois aussi simple. Qu'un petit rouleau de papier glissé dans le vagin. Cette période des années 60 et une bonne part également, enfin du début des années 70 en tout cas, conserve curieusement, ou je ne sais pas si c'est curieux, mais en tout cas conserve une dimension profondément héroïque. Une forme de nostalgie, alors peut-être que je ne parle que pour moi ici, mais enfin ces photos en noir et blanc de gens qui font des trucs incroyables, qui cassent des violons, qui... peignent en se plantant des pinceaux dans le vagin ou qui égorgent des moutons au-dessus de gens qui sont allongés, enfin, qui se découpent en lanières, qui sodomisent des têtes de saumon, enfin, ils font des trucs hallucinants. Cette portée héroïque elle est directement reliée, du moins par l'historiographie, comme si la continuité allait de soi, avec la figure maudite de l'artiste moderne. C'est très curieux, comme Van Gogh suicidé de la société équivaut à... Rudolf Schwarzkogler et ses lacérations. C'est très étrange, enfin, comme finalement on a une espèce de lecture encore totalement adossée au théâtre de la cruauté à la Artaud sur ces années-là. Et combien les photographies en noir et blanc participent de cette j'allais dire mythographie, enfin de cette nostalgie d'un âge d'or mythique, etc., qui continuerait à infuser et à légitimer en quelque sorte la production de l'art contemporain. Comme si peut-être encore aujourd'hui les artistes contemporains étaient encore dans la même situation. Ce n'est plus tout à fait le cas. Ce n'est plus tout à fait le cas parce que, d'une certaine manière, les outrances ou les conquêtes artistiques qui ont été menées par ces figures tutélaires ont été tout aussi bien digérées et acceptées et soutenues, bon an, mal an, que celle des générations dont il prétendait assassiner les compromissions. Certes, ils ont créé un syndicat des travailleurs de l'art. Certes, ils ont pu, par exemple, Guerrilla Art Action Group, le groupe de la guérilla artistique, faire des attentats culturels dans le MoMA, ou perturber des manifestations, décrocher des toiles, comme BMPT refusant d'accrocher à la Biennale de la Jeune Peinture, ou faire des salles en l'honneur du Vietnam, enfin. En réalité, je ne sais pas, c'est pas du tout le bon terme, en réalité. Mais en dépit de ces efforts, de cette critique institutionnelle radicale qui a été menée par les artistes des années 60, critique qui les a amenés à créer leur propre lieu d'exposition, qui les a amenés à créer leurs propres ateliers, qui les a amenés à créer leur propre maison d'édition dont ils se sont occupés, qu'ils ont fait prospérer et dont évidemment les publications sont aujourd'hui des incunables que Daniel et moi nous arrachons sur eBay, etc. Bon. En dépit de tout cela, en dépit de ces efforts considérables pour ne pas finir au musée, non seulement, évidemment, ils y sont tous, et plutôt deux fois qu'une, le grand âge venant, mais encore le modèle même d'un art alternatif qu'ils ont élaboré a servi de prototype, de matrice à la politique culturelle des années 70 et 80. Si vous ne savez pas quoi faire depuis 30 ans d'un bâtiment industriel que malheureusement la crise économique aidant, la globalisation et le dumping social contribuant, si vous ne savez pas quoi faire d'une usine qui vous coûte cher, vous en faites un lieu d'art contemporain. Un atelier de tissage, une piscine, peu importe. L'usine Terreau à Dijon, en avant. Mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que systématiquement une usine hydroélectrique devrait devenir la Tate moderne? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inventer autre chose, un patrimoine, comme destin un patrimoine industriel, que de servir à accrocher des toiles? Ou à faire des performances, ou je ne sais quoi. Mais ça vient du fait, tout simplement, que dans ces mêmes années, la même Caroli Schneemann et le même Alain Capro et les mêmes artistes que je viens de citer ont acheté des bâtiments industriels dont personne ne voulait pour faire leurs ateliers. Ils y ont habité illégalement, il y a eu une espèce d'arrangement avec le Housing Act, enfin, je vous fais grâce des détails. Et du coup, d'un coup d'un seul, la réussite de Soho, South of Houston Street, donc du sud de l'île de Manhattan, à partir de ces coopératives, de ces lieux alternatifs, de ces friches artistiques, vous voyez bien, enfin, tout ça, c'est le quotidien de notre politique culturelle aujourd'hui. Ça a marché. Ça a tellement bien marché, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, aucun artiste ne peut plus acheter un loft à Manhattan. Pour en connaître encore quelques-uns qui vivent dans les lofts qu'ils ont achetés en 66, 67, 68, ils ne peuvent même plus payer les charges, en fait. Parce qu'une fois que vous avez Robert De Niro ou Madonna qui habitent dans votre coop, ils exigent de tels services que finalement vous payez 15, 20, 30 000 dollars de charges par an et il n'y a pas beaucoup d'artistes finalement qui sont capables de les sortir même s'ils ont déjà payé leur loft. Évidemment, le loft se vend 20 millions d'euros, enfin de dollars. Donc c'est... Voilà. C'est-à-dire que bien qu'ils aient effectivement constitué une alternative, une espèce de zone d'autonomie temporaire, enfin, pour reprendre des termes de la contre-culture contemporaine, autour d'attaques des apatistes, de la décroissance, enfin, tous ces gens-là, hein, leurs zones d'autonomie temporaire sont devenues véritablement le prototype de la façon dont nous envisageons la politique culturelle aujourd'hui. J'ai trouvé, en préparant vaguement cette intervention, je ne sais pas si Pierre-Alain Four est parmi nous, non, un document tout à fait intéressant, qui est disponible, c'est public, c'est un PDF sur le net, hein, qui s'intitule « Synergie, art et économie, la martingale de la créativité ». Attention, on est vraiment dans un casino. je voudrais pas insulter personne, c'est le Grand Lyon hein, qui a donc commandé ce rapport à Pierre-Alain Four. C'est récent, 2 juillet 2010. C'était à l'époque où on croyait encore qu'il y aurait un musée des Confluences, tout ça, enfin bon, passons. Pardon, c'était facile. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les objectifs. Je le rappelais dans le petit texte de présentation de cette conférence, l'art contemporain en 2010, donc l'année de la rétrospection sur le rapport, c'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. 40 milliards de dollars, et c'est en augmentation avec la crise, en fait, puisque l'art sert de valeur refuge, et c'est bien normal, après tout. C'est en augmentation, je n'ai pas encore les chiffres de 2011, mais ils devraient bientôt être connus, et rien qu'avec l'activité de la Chine sur le marché, on sait qu'on sera très probablement au-delà de 50 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est en gros l'équivalent du trafic illégal des armes, hein, pas tout à fait, c'est 70 milliards. C'est davantage que le trafic illégal de médicaments. Et voilà, donc ça représente quand même, ça représente quand même une vraie activité économique, hein, y a aucun doute là-dessus. Et donc, ce rapport, j'ai pris celui-ci parce que ça tombe bien, on est à Lyon, mais en réalité, toutes les métropoles européennes ont établi ce même type de constat, et européenne et mondiale. Évidemment. Ce rapport vise à célébrer l'alliance naturelle, apaisée de l'art et de l'économie. Au nom même des principes de cet art des années 60 qui vomissait le grand capital, la domination. Le patron a besoin de toi pour vivre, tu n'as pas besoin du patron pour vivre, oui, ce genre de choses. Je le fais vite. Donc, juste, je crois que l'introduction est tout à fait intéressante. Donc on va en lire quelques passages. Alors que l'art et la culture génèrent des flux capitalistiques importants, 40 milliards donc, ce secteur est longtemps resté terra incognita en termes d'analyse économique. Mais aujourd'hui, il est acquis qu'on ne peut négliger cette dimension pour un secteur qui est même devenu l'un des lieux de recherche les plus stimulants pour la science économique. En effet, il est totalement irrationnel. Donc. Au-delà de cette dimension d'étude, l'observateur contemporain ne pourra qu'être frappé par l'émergence d'un paradigme nouveau qui cherche à lier art et développement économique. Cette hypothèse constitue un des piliers des théories nouvelles qui envisage l'avènement d'une quatrième ère de développement, s'appuyant sur une économie de la connaissance décrite aussi comme un capitalisme cognitif. C'est-à-dire qu'on serait au-delà de la tertiarisation de la structure économique vers véritablement un capitalisme ou en tout cas une économie fondée sur l'information, enfin, en gros. Et dans une société qui mise sur la gestion, le développement et le renouvellement des connaissances, l'art et les idées acquièrent une part centrale. Bon, jusque-là, tout va bien. Les origines de la lecture. Je vous recommande vraiment la lecture. D'abord, c'est très bien fait, c'est un très bon travail. Moi, j'ai appris plein de choses sur l'économie de l'art, enfin, sur comment les économistes ont commencé à travailler sur l'art. Donc, c'est vraiment un très bon domaine, un très bon truc. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu plus loin. Alors, évidemment, il y a nécessairement une œuvre d'art contemporain qui, à la fois, illustre et, en même temps, appuie ce mariage de façon... presque ironique, hein, si ça pouvait pas être pris au premier degré sans que personne ne s'en offusque. Hein, c'est quand même ça le problème du second degré, c'est que si le premier degré ne fait réagir personne, on a du mal à atteindre le second degré. Donc voilà, alors oui, ça c'est très bien aussi. Je pense que les gens qui travaillent dans les institutions culturelles ici présents vont certainement bondir de la confrontation directe du lingot d'or et de la réserve de musée, les cadres dorés formant évidemment le passage iconique de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci. Une société Baudrillard est rameutée pour la bonne cause sur le capitalisme culturel, hein, n'est-ce pas ? Voilà, donc Et c'est là que ça devient intéressant. C'est, finalement, d'où vient ce mariage ? Et il vient de la politique culturelle développée par Lang, c'est-à-dire celle qui est à l'origine du maillage ô combien fertile et riche et divers et passionnant. Hein. Je le dis quand même ici, parce qu'il ne faut quand même pas laisser uniquement les économistes nous dire combien on a été roulé dans la farine. Il faut aussi dire qu'il y a des choses merveilleuses qui sont advenues de cela. Donc la politique culturelle lancée par Lang, qui a réellement offert, au moins sur le territoire français, mais ses équivalents en Allemagne, aux États-Unis ont fait pareil, un maillage du territoire par des institutions, par des relais d'art contemporain. Un institut d'art contemporain, on est en plein dedans ici, c'est ce qui, littéralement, institue l'art contemporain. Donc que nous dit-on ? Que la politique culturelle de Lang a marché, a réussi, parce qu'elle n'a pas été laissée aux mains des seuls intervenants culturels, qui, eux, avaient que des principes horribles, enfin, contre-productifs, du genre la démocratisation de l'art. Ça. Et que, en fait, ça a réussi, c'est ce qu'écrit Flour, hein, enfin, ça a réussi parce que ce programme culturel s'est adossé à des projets de développement économique en région. Et de fait, on le sait, enfin, il suffit de voir l'île capitale européenne de la culture, la transformation économique qui s'est faite autour de ça, ou les divers projets qui sont adossés à chaque fois sur ce genre de restructuration urbaine liée à l'art. C'est parce que, d'abord, l'économie de l'art contemporain est bankable en termes d'image, rentable en termes de revenus touristiques et efficace en termes de représentation des territoires, qu'elle est soutenue avec une telle énergie. Hein, même si aujourd'hui on sabre dans les budgets, enfin, je comprends bien, tout ça c'est très difficile. Donc voici ce qui est dit. Se développe dans les années 80 un courant de pensée qui veut lier économie et culture. L'objectif général étant de démontrer que les politiques publiques culturelles sont un investissement et non de l'argent dépensé à fond perdu. Ce n'est pas le fait du prince. Ce qui pourtant est sans doute le meilleur ornement de l'art. Enfin bon. Elles impactent sur le tourisme, l'hôtellerie, l'emploi culturel et plus largement sur le niveau d'éducation. Ce mouvement est initié par Lang, alors ministre de la Culture, et son équipe qui estime qu'il faut développer les nouveaux leviers pour légitimer les investissements publics culturels. Mais il faut alors surmonter deux difficultés. D'une part, l'absence de travaux scientifiques portant sur l'économie de la culture, et d'autre part, la résistance du milieu culturel, ou les horribles, qui craint que l'on ne soutienne plus que ce qui serait rentable. Donc, réconciliation formidable, et je saute directement, alors bon, le spectacle vivant, enfin, vraiment c'est très très bien, hein, l'irrésistible attraction de l'économie créative, parce que finalement, l'artiste, c'est la créativité, ce n'est plus la création. Mais attention, c'est exactement ce qui était revendiqué par les artistes des années 60 et 70. Lorsque Joseph Beuys dit « tout le monde est un artiste », lorsque Giuseppe Chiari dit « arte facile », lorsque Georges Matsunas, Fluxus, enfin tous ces mouvements qui aujourd'hui nous paraissent si glorieux, etc., nous disent « l'art doit être concret, en prise avec le quotidien, tout le monde doit pouvoir faire les pièces ». Effectivement, tout le monde, comme dirait Ben, peut boire un verre, moi en l'occurrence il est de vin, lui dit d'eau. Tout le monde peut boire un verre, il n'y a aucun souci. Matsunas espérait que ça amènerait la disparition de l'artiste. Lui, c'était ce qu'il visait, mais enfin bon, ses camarades n'étaient pas forcément contents ou d'accord avec lui. Donc, le but même des années 60, ou de l'art des années 60, du refus des distinctions entre les médiums, entre les niveaux culturels, etc., etc., le patrimoine culturel de tout un chacun, c'est de conférer au spectateur un rapport créatif à son environnement et finalement qu'il puisse faire, qu'il puisse être le sujet de sa propre créativité. Dans la version 2010 du rapport, c'est que cette créativité qui était poursuivie par les artistes qu'ils espéraient initier chez leurs spectateurs, elle est celle que on attend aujourd'hui dans le cadre du travail salarié. Il y a un paragraphe qui est absolument extraordinaire. Espace cerveau, tout ça. Oui, alors les lofts, vous voyez, enfin bon, je vais revenir. Donc un petit paragraphe sur Soho pour expliquer le développement des villes par grâce aux bobos. Je cherche. Alors sur évaluation, où est ce paragraphe sur l'artiste? Ah, excusez-moi. Je l'ai déjà dépassé. Flûte, j'ai oublié de noter la page. C'est avant. Ah, je suis navré. Bon, c'est pas grave, je vais le citer de mémoire. Mais l'idée, c'est que finalement, ce qui détermine l'artiste contemporain en tant que professionnel, ce qui le caractérise, très grande mobilité, réactivité à très grande vitesse et motivation totale, sont précisément ce qui est attendu du salarié moderne. C'est-à-dire que non seulement, comme dans le cas du modernisme tout à l'heure, les valeurs idéologiques de la modernité ont été retournées comme un gant, mais celles qui ont fondé la contestation à l'origine de l'art contemporain sont l'expression même de notre monde contemporain. Ils sont l'attente, et elles sont l'attente, bien sûr. La future économie de la connaissance, c'est le triomphe de l'artiste. C'est la créativité permanente dans le travail. C'est l'absolue éradication de toute distinction entre espace privé et espace public. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est exactement ce que fait l'artiste contemporain. Il travaille dans la rue, il amène la rue dans le musée. Il transporte le musée dans la cité HLM, il balance la cité HLM dans l'université. Rock'n'roll. Il explore des voies nouvelles. C'est sa fonction, c'est sa mission, c'est ce en quoi il est artiste. Il peut bien sûr produire des grosses machines, genre Jeff Koons, les vendre à des milliardaires, jouer en bourse sur sa propre valeur, enfin... racheter ses propres œuvres pour faire monter sa cote, comme le fait Damien Hirst. Il peut être un acteur économique, véritable, Et c'est en cela qu'il est artiste, pas dans le fait qu'il recouvre de diamants un crâne, ça tout le monde s'en fout. Là où il est véritablement un artiste, c'est parce qu'il joue sa cote. Il peut s'engager auprès de peuples injustement balayés par la modernisation de leur pays. Il peut décider de faire expérimenter toute une ville avec des vélos étranges. Il peut tout. L'artiste contemporain peut tout. D'ailleurs, il a une solution pour tout. C'est extraordinaire. C'est un type qui a des idées sur tout. Pas forcément sur la peinture, mais il a des idées sur tout. Et c'est forcément les meilleurs. Et c'est forcément les meilleurs parce que, précisément, il est dans un rapport créatif au monde tel qu'il est. Je voudrais déprimer personne, quand même. Hein, donc, L'artiste contemporain, c'est donc finalement le modèle accompli du travailleur postmoderne. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est lui-même qui l'élabore, pratiquement, le postmodernisme. Il est dans une économie totalement immatérielle, il vend des produits qui n'existent qu'à peine, il rend des services qu'on ne peut pas quantifier, et il les évalue selon des critères que personne ne peut saisir. Et ça ne marche que par la communication. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas bien. Ce n'est pas un jugement moral que j'édicte là. Je n'oublie pas, et vous n'oubliez pas non plus, que nous n'avons jamais que l'art que nous méritons.